Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il y a 15 jours, puisque je n'ai pas pu vous donner le serment dimanche dernier, nous avons médité sur le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, Saint Thomas nous fait méditer sur notre adoption divine grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il s'agit de prendre conscience, de contempler, de façon à vivre de cela, de tous les bienfaits de notre Seigneur, les bienfaits de l'incarnation, ce que Jésus-Christ nous communique en étant venu dans ce monde. Lorsque nous avons étudié le sacerdoce de Jésus-Christ, c'était très important parce qu'il s'agit d'abord d'offrir le sacrifice de rédemption pour le péché. Étant donné la gravité du péché, il faut un sacrifice qui a une valeur infinie. Pour que ce sacrifice soit accepté de Dieu, il faut un prêtre qui soit divin. Il n'y a que notre Seigneur qui soit le prêtre divin, il n'y a que lui qui soit la victime parfaite. Mais si notre Seigneur vient nous racheter, ce n'est pas seulement pour nous sortir du péché, c'est pour nous rendre l'héritage. Or, nous dit saint Thomas d'Aquin, l'héritage, on peut l'avoir de deux façons. Soit parce qu'on est né dans la famille, et on héritera de son père à la mort de celui-ci, soit parce qu'on a été adopté dans la famille. L'adoption est l'acte par lequel un homme communique son héritage et ses richesses à celui qui l'adopte. Or, Dieu est infiniment bon, infiniment riche. Et donc, Dieu aime communiquer ses trésors. Il le fait à 3 degrés. Le premier degré auquel notre Seigneur, auquel Dieu, pardon, communique ses trésors, c'est le degré général dans toute la création, dans toute la nature. Cela se voit particulièrement chez les êtres irrationnels, c'est-à-dire qui n'ont pas d'intelligence. Ils reçoivent de Dieu, puisqu'ils ont été créés par Dieu, que ce soit le chat, le lapin, les arbres, les splendides fleurs, que sais-je. Tout cela a été créé par Dieu, dans sa sagesse de Dieu, qui communique des perfections qui viennent de lui. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, parce que toutes ces choses non intelligentes reçoivent des perfections de Dieu, mais ne s'en rendent pas compte, ne connaissent pas l'auteur, et ne connaissent pas la nature du don. Après cela, Dieu communique des dons aux êtres intelligents, aux êtres rationnels, c'est-à-dire aux anges et aux hommes. Ceux-ci, d'une part, connaissent l'auteur du don, reconnaissent l'auteur du don, et connaissent la nature du don, ou devraient. Et après ça, il y a un troisième degré, dans lequel Dieu ne communique plus des dons extérieurs, si je puis dire. Mais, pour prendre l'expression de saint Thomas d'Aquin, Dieu communique l'unité que Jésus-Christ, le Fils éternel, possède avec son Père dans la Sainte Trinité. Cela, évidemment, suppose la foi pour reconnaître Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est le Père. Et cela suppose surtout la charité, parce que c'est la charité qui va permettre de vivre dans cette union. C'est quelque chose de très élevé. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, mais je vous le répéterai parce que c'est important. On ne peut pas réduire notre sainte religion, c'est-à-dire nos rapports avec Jésus-Christ, à un simple code comportemental. Notre sainte religion va beaucoup plus loin. Elle n'est pas quelque chose d'humain, elle n'est pas un mode de vie humain aussi parfait soit-il, elle est la communication aux chrétiens de cette richesse d'intimité entre le Père et le Fils. Je vous ai déjà dit qu'on osait peu parler de cela parce qu'on a peur de l'orgueil, on a peur que ces grands dons soient méprisés, et hélas, on pourrait s'en tenir assez facilement à prêcher un code comportemental. Mais aujourd'hui, où la crise est si profonde, il est évident que ne tiendront que ceux qui savent qu'ils vivent de la vie de Dieu, qui savent reconnaître cette intimité qu'ils ont avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, relativement facile, puisque le Fils est précisément venu dans ce monde pour rendre relativement facile la poursuite de cette vie divine qu'il vient nous communiquer. Dieu aurait pu tout diriger du haut du ciel, et cela aurait fait des rapports très abstraits entre nous et lui. Il a voulu que son Fils s'incarne pour que cette richesse abstraite soit en même temps concrète. Ce qui fait que on entre facilement dans le secret de Dieu parce qu'on est comme mené par la main, par Jésus-Christ. Et la tradition de l'Église, la révélation plus exactement, la révélation aussi bien dans l'Écriture sainte que dans la tradition, décrit, donne un nom à cela, c'est l'adoption. Jésus-Christ est fils par nature, parce qu'il est Dieu. Ce qui constitue la personne du Fils, c'est d'être le Fils de Dieu, le Fils du Père. Il reçoit toutes les richesses du Père. Et quand il descend dans ce monde, il n'a pas besoin d'être réadopté en devenant homme, car il possède déjà l'héritage. Il vient dans ce monde avec l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire la richesse de Dieu, et la richesse de Dieu, c'est la vie intime d'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui est la définition de la vie chrétienne. Saint Jean, je crois, le dit dans une épître, ou Saint Pierre, dans une épître. Vivre dans la communication du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui ont peur de parler de cette profondeur de la vie chrétienne, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas l'efficacité de l'incarnation. Ils ne veulent pas croire à la puissance des moyens mis en œuvre par Dieu dans l'incarnation. Ce qui fait que nous arrivons à la deuxième partie du sermon. L'homme aurait pu vivre dans une vie purement humaine. Il la garde, cette vie humaine, mais il n'aurait eu qu'elle. C'est le deuxième degré que je vous ai dit, au-dessus des plantes, des animaux. Il y a l'homme qui reçoit des dons de Dieu et qui sait quel est l'auteur et qui connaît la nature du don. Cela, nous ne le perdons pas, même lorsque nous sommes adoptés comme fils. Mais si nous n'avions pas été adoptés, nous serions restés à ce niveau, qui est un niveau beau, mais qui n'a rien à voir avec la splendeur de la Sainte Trinité. Le code de vie qui nous aurait dirigé serait été uniquement la loi naturelle. C'est une question de nature. Tout homme, du moment qu'il a la nature humaine, c'est-à-dire qu'il est né homme, reçoit ses dons de Dieu, par lesquels il est créé à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire capable de comprendre les choses que Dieu fait. Mais pas d'entrer dans son intimité. Pas de connaître la Sainte Trinité. Encore moins de vivre dans l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette vie-là n'est pas perdue, c'est pourquoi la loi naturelle continue à nous régir, mais elle est infiniment dépassée par la loi de charité, qui est la loi du chrétien. Tous les commandements de la loi naturelle se résument à « Tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Et notre Seigneur dit « Dans ces deux commandements sont contenus toute la loi des prophètes. » Et saint Augustin commente en disant « Eh bien, puisque c'est cela, aime et fais ce que tu veux. » Fais ce que tu veux parce que, puisque tu aimes, toute ton action sera dirigée par l'amour de Dieu et il n'y a plus de crainte que tu fasses n'importe quoi, à condition d'aimer. Quel aurait été le sacerdoce si nous étions restés de simples hommes, un sacerdoce humain, qui aurait offert à Dieu... Bon, je ne peux pas vous donner d'exemple dans l'histoire de l'humanité, puisque de fait ça n'a pas existé. Dès le début, le premier homme a été appelé, et d'ailleurs a été élevé à la dignité de fils de Dieu, dès le début. Puis après ça, nous allons le voir dans la troisième partie, il y a eu la révolte et on peut perdre cette dignité. Celui qui se révolte contre son père adoptif perd la dignité de fils adoptif. Nous pouvons la retrouver. Mais elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Parce que l'héritage peut être perdu. Donc si je ne peux pas vous donner d'exemple, je ne peux pas vous dire Caïn, Abel, c'était... Non, ils avaient déjà la foi en Jésus-Christ. Si nous n'avions été que des hommes, nous aurions eu un sacerdoce purement humain. Mais, dès qu'on est élevé à la dignité de fils de Dieu, il faut offrir à Dieu une victime sainte, sans tache, parfaite, et il faut l'offrir parfaitement. Et donc notre prêtre, à nous chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et tous les prêtres humains ne font que poursuivre le sacerdoce de Jésus-Christ. Donc notre loi n'est pas la même, notre sacerdoce n'est pas le même, notre but n'est pas le même. Le but de l'humanité aurait été simplement une sagesse, le but de l'humanité est maintenant d'entrer dans l'intimité de Dieu. Les moyens ne sont pas les mêmes. Parce que les moyens à nous, c'est la contemplation, la prière, soutenue par les sacrements. Le moyen, c'est la grâce. La vie n'est pas la même. Car la vie de l'homme, lorsqu'on le considère comme homme seulement, c'est-à-dire en dehors de l'adoption divine, sa vie, c'est une vie humaine. La vie du chrétien qui est adopté, c'est la grâce qui est donnée par le Saint-Esprit. La splendeur de l'homme, c'est une ressemblance lointaine à Dieu qui révèle sa divinité mais cache sa sainte Trinité. La splendeur du chrétien, c'est une ressemblance à Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, dans le sein de la Sainte Trinité. Ressemblance d'un côté à Dieu unique qui cache sa vie intime, ressemblance de l'autre côté à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est né Fils de Dieu, et qui, lorsqu'il descend dans ce monde, descend avec sa qualité de fils de Dieu, car c'est une qualité qui est attachée à la personne et qu'il communique ensuite. Et c'est pour cela qu'il descend dans ce monde. Je pense que vous pouvez méditer, encore une fois cette semaine. Vous pouvez très bien prendre ces différents points de doctrine comme sujet de vos méditations et de vos contemplations. De méditation pour comprendre et de contemplation pour vivre. Et il arrive un moment où on laisse de côté le raisonnement et puis on se laisse prendre par le bon Dieu. Mon Dieu, dire que je suis votre fils. Comme votre fils Jésus-Christ, lui, il l'est par nature, moi je suis adopté, mais nous aurons le même héritage. Nous ne le posséderons pas, évidemment, avec la même, comment dirais-je, la même ampleur. Mais nous le posséderons en plénitude, mais pas avec la même ampleur. Mais ça sera le même héritage. Il n'y aura pas de différence. Troisième partie de ce sermon, le drame d'aujourd'hui, qui est l'œcuménisme, mais qui est beaucoup plus fondamental que l'œcuménisme. Le Fils s'est révolté. Le Fils a cru qu'il pouvait capter à son profit l'héritage divin comme un droit et non pas comme un don gratuit de Dieu. C'est la grande révolte. Et cette révolte part des débuts de l'humanité. Dieu révèle aux hommes leur appel à l'adoption divine. Certains hommes l'acceptent, d'autres le refusent. Ève veut bien de l'héritage, mais elle veut que ce soit à elle et non pas un héritage. Elle veut le posséder en propre et non pas comme reçu en héritage. C'est cela la gravité du péché d'Ève, et puis du péché d'Adam. Heureusement, Dieu a promis le Rédempteur. Adam et Ève ont cru au Rédempteur. Ils sont rentrés dans la filiation divine. Ils sont redevenus fils de Dieu. Dieu, évidemment, pour éviter de nouveau le drame de l'orgueil, les a mis dans des conditions de vie ici-bas difficiles, pour leur rappeler qu'ils sont des créatures élevées à la dignité de fils et qu'ils ne le sont pas par nature. Ne nous plaignons pas des conditions de vie qui sont les nôtres. Elle nous évite beaucoup de péchés et elle nous évite surtout ce péché d'orgueil de croire que tout nous est dû, y compris l'héritage divin. Et puis, la deuxième révolte, c'est lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Son peuple a refusé cet héritage de la filiation. C'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort parce qu'il s'est dit le fils de Dieu. Non pas que Dieu ne puisse pas avoir de fils, mais ce fils ne pouvait pas se faire homme. Voilà ce que les grands prêtres pensaient. Ce fils ne pouvait pas se faire homme. La filiation divine, le caractère éminemment divin de la filiation, à leurs yeux, était incommunicable aux hommes. Et puisque Jésus-Christ se déclare le Fils de Dieu, c'est qu'il communique l'héritage divin aux hommes et on le met à mort à cause de cela. Pourquoi ? Parce que c'est une révolte. Exactement la même révolte qu'Ève. C'est une révolte qui a coulé à travers toute l'histoire de l'humanité. Dieu, en prenant le peuple choisi, le peuple élu, a préservé en grande partie ce peuple. Mais ça sourdait par-dessous, vous savez, comme une rivière souterraine. Et puis ça ressort. Et au moment où les révoltés se rendent compte que s'ils laissent faire notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la fin de leur révolte. Alors ils préfèrent le mettre à mort. Alors c'est une splendeur dans l'Église, parce que notre Seigneur est le plus fort, parce que par sa mort, il condamne ses ennemis mais il, par son incarnation, et par sa mort, et par son sacerdoce, tout ce que je suis en train de vous expliquer, il nous communique les richesses infinies de son Père. Et puis, hélas, cette révolte continue à ramper comme une rivière souterraine, et il y a des chrétiens qui prêtent l'oreille, qui y goûtent, comme Ève a goûté au fruit défendu, qui le trouvent bon, comme Ève a trouvé la pomme bonne, le fruit bon. Et nous arrivons à Vatican II, qui est de nouveau l'explosion de la révolte. L'homme est homme. Paul VI déclare, plus que tout autre, nous avons le culte de l'homme. Gaudium et Spes, le texte essentiel du Concile, est jamais étudié, alors que c'est le texte le plus important. Le Saint-Esprit, l'Esprit est quelque chose d'humain. Le Saint-Esprit est considéré, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais de façon humaine, c'est les progrès de l'humanité, la gloire de l'humanité, l'avenir de l'humanité, l'espoir de l'humanité, les joies de l'humanité. C'est une révolte, c'est-à-dire que Vatican II prêche aux hommes qu'ils n'ont pas besoin d'être adoptés pour avoir l'héritage, ils l'ont tout seuls comme des grands. C'est pourquoi ils communient désormais debout, dans la main. Et le motif a été donné, attitude adulte. C'est gravissime. C'est une révolte fondamentale. L'œcuménisme est plus qu'une erreur. Il y a un vice à la base. Et ce qui devient très grave, c'est que ce vice est communiqué par l'erreur. Dire que des hommes d'Église aujourd'hui affirment à des hommes que Dieu veut adopter comme enfants, qu'ils n'ont pas besoin de cette adoption, et prétend leur mettre en main l'héritage en leur disant « Prenez-le, il est à vous, vous n'avez pas besoin d'être adopté pour le recevoir. » C'est-à-dire qu'ils prêchent la révolte. La conséquence pour nous, mes bien chers frères, c'est que de même que notre Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort pour empêcher qu'il puisse rappeler, communiquer la filiation divine, de manière à laisser les hommes libres de prendre, de voler l'héritage comme si c'était à eux, eh bien, de même, tous ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, et surtout aujourd'hui, où cette révolte a de nouveau éclaté avec Vatican II, le monde veut se débarrasser d'eux, parce que nous sommes tous des fils de Dieu, nous les chrétiens, vous qui m'écoutez, des fils de Dieu adoptifs qui communiquons la vie de Dieu adoptive. Les parents la communiquent aux enfants, ou devraient la communiquer. Les prêtres la communiquent, ou devraient la communiquer. Les évêques la communiquent, ou devraient la communiquer. Alors, dès qu'un évêque, dès qu'un prêtre, dès qu'un père de famille, dès qu'un chrétien vit de cette adoption divine en fils de Dieu, se comporte en fils de Dieu, en fils de roi, en race royale, en race sainte, en peuple saint, alors le monde veut s'en débarrasser, et c'est de nouveau la croix pour nous, comme ça l'a été pour notre Seigneur Jésus-Christ. Les conditions de la croix qui nous sont faites aujourd'hui, ce martyr moral, ce martyr social, est un refus de l'adoption divine qui pour nous est notre vie. Dieu, dans sa grande sagesse, et c'est ma conclusion, pour que cette adoption divine soit encore plus facile à recevoir par nous, a voulu naître d'une mère, de la Vierge Mère, et nous l'a donnée pour mère, sur la croix. Il nous l'a donnée pour mère parce que la mère est celle qui mène l'enfant au père pour recevoir l'héritage. Voilà quelle est la place de la Sainte Vierge. Elle est la Reine du Ciel, et c'est elle qui nous mène à Dieu pour recevoir l'héritage. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.